France Inter.
Voici le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Un 13-14 sur le terrain avec ces Français qui font face au trafic de drogue. Nous sommes tout près de Dijon, commune de Talent, 11 000 habitants. L'agglomération dijonnaise marquée ces dernières semaines par des règlements de compte en série. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était ici même la semaine dernière. Et comme beaucoup de riverains, Brigitte veut que ça cesse.
Ce qui a mis la panique, c'est bon, la fusillade, ce gamin qui a été poignardé. Voilà, on sort d'une voiture, tu te prends un couteau. C'est plus entre eux, quoi. Mais bon, même entre eux, il faut que ça s'arrête, quoi. Je ne sais pas, ça se mobilise, mais bon, c'est vrai qu'il y a eu des choses de fait. Hein. Bon, la visite du ministre, oui. Il faut que ça continue, quoi. Il faut qu'il y ait des mesures de prise.
Dijon, l'une des premières villes de France concernées par les opérations Place Net lancées par le gouvernement. Nous suivrons ces policiers dans les caves et les appartements. Quelle efficacité? Pourquoi le trafic charrie-t-il autant de violence? Le procureur de Dijon sera avec nous. Nous parlerons aussi des consommateurs et des malades avec une ancienne toxicomane devenue médiatrice de santé, dispositif pionnier ici au CHU de Dijon. Et avec vous, Christelle Robière. Bonjour Christelle. Les autres titres de l'actualité.
Oui, bonjour à tous. Le nouveau béaba des professeurs des écoles, Emmanuel Macron, veut raccourcir leur formation sur 3 ans avec des licences spéciales accessibles après le bac et ce dès l'année prochaine. Détail à suivre. Un adolescent roué de coups près de son collège. Une fois de plus, nous irons à Viry-Châtillon où l'inquiétude le dispute à l'incompréhension. Nous vous raconterons aussi l'histoire d'une magistrate qui risque de finir devant une cour d'assises. La réouverture ponctuelle du point de passage d'Erez dans la bande de Gaza, Benjamin Netanyahou a pris la mesure du changement de ton américain. Enfin, on est plus en sécurité dans une Formule 1 que sur un vélo. Terrible constat de l'un des acteurs majeurs du Tour de France après les terribles chutes d'hier.
Et puis juste avant 14h, nous saluerons ici la solidarité des bourguignons qui ont subi cette semaine les inondations. Nous vous raconterons comment les lions d'un parc animalier ont échappé aux crues. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Nous sommes dans le quartier du Belvédère, sorti de terre ici à Talent dans les années 70. Nous surplombons l'agglomération de Dijon, des vignes en contrebas, une forêt qui se devine derrière les tours d'une dizaine d'étages, d'un quartier à l'apparence tranquille et proprette. Vous entendez peut-être les cris des enfants qui jouent à cette heure-ci à quelques dizaines de mètres dans l'école Jacques Prévert. Mais un quartier qui a vécu des jours terribles il y a 3 semaines avec 2 morts en 3 jours. Bonjour Fabien Ruinet.
Bonjour Monsieur Cadet.
Vous êtes le maire Les Républicains de Talent, maire depuis 2020. Merci de nous accueillir dans votre commune. Alors un jeune de 19 ans poignardé il y a 3 semaines, 2 jours plus tard un autre de 15 ans tué par balle. Et dans ce deuxième cas, clairement en lien avec le trafic de drogue, ça s'est passé ici même devant l'immeuble devant lequel nous trouvons.
Exactement, je me suis rendu sur place quelques minutes après que les faits aient été commis. Donc nous nous trouvons devant un immeuble de 4 étages. L'entrée est ici et le jeune se trouvait devant la porte et donc il a pris 2 balles. Donc il est décédé sur le champ.
Un choc énorme, évidemment, dans un quartier comme celui-ci. Est-ce que vous avez vu changer la situation, que diriez-vous, ces dernières semaines, ces derniers mois?
Alors effectivement, la situation a beaucoup changé. Nous ne sommes pas habitués à cette situation-là, hein, parce que depuis 2023, il y en avait 9. Octobre 2023, il y a eu 9 incidents, dont 2 à Talent. On n'a pas l'habitude, nous, sur place et ici dans ce quartier, d'être confrontés à cette violence-là. Ça, c'est une réalité. Et
comment vous l'expliquez?
Alors je l'explique parce qu'en fait on a des différents territoires. Il y a effectivement des délinquants qui cherchent à implanter des nouveaux trafics de stupéfiants et c'est la guerre entre eux et ça c'est quelque chose de nouveau.
Que peut faire un maire comme vous face à cette situation, un jeune homme qui décède dans un quartier de sa commune, mort par balle?
Alors déjà premièrement forcément il ne se satisfait pas de la situation. J'aimerais bien qu'on parle de Talent autrement que comme ça. Hein,
on le fera aussi durant cette émission, je vous le promets.
Exactement. D'abord, il y a plusieurs systèmes. Nous, on a un système de tranquillité publique avec une police municipale intégrée. Il y a aussi la médiation qui consiste justement à faire tout un travail de prévention.
Oui.
Mais dans tous les cas de figure, c'est un ensemble, police municipale, police nationale et justice qui doivent fonctionner encore mieux. Et c'est ce que je développerai tout à l'heure.
Précisément, les opérations Place Net annoncées par le gouvernement, l'une des premières a eu lieu ici dans l'agglomération dijonnaise. Elle se poursuit d'ailleurs. Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce qu'elle donne déjà des résultats?
Réponse à la question, un maire doit se satisfaire du fait que c'est pas de la communication. Le ministre de l'Intérieur.
Ça n'en est pas.
Ah, ça n'en est pas du tout. C'est très efficace. Effectivement, il y a une présence. D'abord, ça rassure quand même le quartier, parce qu'il faut pas oublier que les habitants sont les premiers à subir le problème.
Oui.
Et deuxièmement, le fait qu'il y ait des présences policières régulières, ça dérange, ça gêne et ça déplace. En tout cas, ça stoppe. Ça, c'est évident.
La question, c'est est-ce que ces opérations vont pouvoir durer très longtemps? Elles demandent des moyens considérables.
Alors déjà, premièrement, elles demandent peut-être des moyens considérables, mais il faudra qu'elles continuent différemment. Parce que forcément, par la suite, ça, l'enjeu exactement de ce système, c'est de pouvoir continuer, mais différemment.
On va en parler avec le procureur, avec le directeur départemental de la police nationale qui nous attendent dans la bibliothèque de ce quartier du Belvédère où nous allons nous rendre maintenant. On va se retrouver ici en direct de Talent tout près de Dijon dans quelques minutes. Christelle, avant cela, toute l'actualité de ce vendredi avec vous a commencé par ces annonces d'Emmanuel Macron ce matin. Elles concernent l'éducation nationale.
Absolument, une formation raccourcie pour susciter des vocations. Emmanuel Macron veut revoir la formation des professeurs des écoles sur 3 ans et plus 5 ans, juste après le bac. Les masters seront ensuite professionnalisants et rémunérés. Le chef de l'État, en visite dans une école du 9e arrondissement de Paris, a fait cette annonce il y a quelques minutes.
Ça dit qu'on allait changer le système de formation. Premièrement, en ouvrant des licences dès l'après-bac. Et donc en créant des licences de préparation au professorat des écoles. On a déjà des filières qui existent, on a quelques milliers de postes qui ont ces dernières années été structurés. Là, on va vraiment aller vers une généralisation. Mais pour pouvoir être formé dès après-bac, ensuite, le concours sera passé à la fin de la licence. Vous pouvez avoir fait une licence d'histoire, de psycho, etc. Vous irez passer le concours pour rentrer en master, et là, vous aurez un master professionnalisant, qui seront en fait nos écoles normales du 21e siècle.
Bonjour Sonia Princey.
Bonjour.
C'est un sujet cher au président qu'il évoque régulièrement. La formation sera donc recentrée et plus spécialisée.
Oui, il veut généraliser ce qui se fait déjà dans des classes qui existent dans une cinquantaine de lycées actuellement, les PPPE, un nom un peu long, qui signifie parcours préparatoire au professorat des écoles. Les étudiants y accèdent après le bac. C'est une formation adossée à une licence généraliste et qui prépare progressivement au métier de professeur des écoles. Les enseignants sont dispensés à la fois dans un lycée et à l'université avec des cours pluridisciplinaires de grammaire, de mathématiques, d'histoire-géographie. C'est donc ce qu'envisage Emmanuel Macron avec cette formation plus poussée sur les savoirs fondamentaux. Le concours de professeur des écoles aura lieu à la fin de la licence et les lauréats rentreront en master avec des périodes de stage de plus en plus longues au cours des 2 années et une rémunération dès la première année de master.
Et l'idée évidemment, c'est de susciter des vocations.
Alors même s'il y a une légère amélioration du nombre de candidats inscrits au concours cette année par rapport aux années précédentes, la pénurie d'enseignants est très préoccupante. Les rectorats ont de plus en plus recours à des contractuels de niveau licence. Le fait que le concours soit placé actuellement en 2e année de master conduit inévitablement à une déperdition de candidats potentiels. Le ramener à la fin de la 3e année de licence permettra d'élargir le vivier de candidats et de recruter moins de contractuels. Mais est-ce que cela suffira? On sait que les conditions de travail et le niveau des salaires rebutent de nombreux jeunes et découragent beaucoup d'enseignants.
Sonia Princey, Emmanuel Macron qui appelle par ailleurs à protéger l'école, je cite, d'une forme de violence désinhibée. Le pronostic vital de l'adolescent de 15 ans agressé près de son collège à Viry-Châtillon dans l'Essonne hier est toujours engagé à l'heure où l'on se parle. Il a été roué de coups par plusieurs personnes alors qu'il sortait de son cours de musique retrouvé non loin de son établissement scolaire. Boris Loumane, vous êtes sur place pour France Inter. La présence policière a été renforcée devant le collège et dans toute la ville et vous avez rencontré des élèves très marqués par ce drame.
Oui Christelle, ici la plupart des élèves connaissent la victime, donc l'émotion est forcément forte aujourd'hui. Elia et Aïcha s'apprêtaient à rentrer en cours quand je les ai croisées ce matin. Elles avaient les larmes aux yeux en évoquant la victime.
Il n'a rien demandé, enfin, il ne méritait pas ça. C'est choquant. Ça pourrait arriver à n'importe qui. Enfin, il ne méritait pas ça.
Alors pour essayer de contenir cette émotion, une cellule psychologique a été mise en place au sein du collège. Il faut apaiser, rassurer les élèves. Certains, comme Yannick, sont craintifs depuis hier et cette violente agression à quelques dizaines de mètres du collège.
Moi au début j'étais choquée, je me suis dit « Waouh !» Alors c'est ça mon collège, genre j'ai peur pour moi maintenant, genre la sécurité, je sais pas comment ça va se passer maintenant.
Alors des policiers sont présents depuis ce matin devant l'établissement, ce qui est une scène inhabituelle ici, parce que des bagarres, il peut y en avoir, oui, dans ce collège, mais des agressions aussi violentes, c'est du jamais vu, c'est en tout cas ce que nous disent les élèves. En revanche, et plus largement dans ce quartier résidentiel de Viry-Châtillon, ce phénomène des bandes de jeunes est connu des habitants. Voilà la scène à laquelle a assisté récemment Michael.
Il y a plus d'un mois, il y a une bande, une vingtaine, j'étais au club de boules de la SVP, non ? Ils avaient un sabre. Quand même, hein, un gros sabre. Ils avaient des baramines. Ils ont tué un chat, délibérément, et ils cherchaient un jeune de la cité.
Et plusieurs habitants ici nous décrivent une dégradation de la sécurité ces dernières années dans le quartier.
Boris Loumagne avec Olivia Branger en direct de Viry-Châtillon. À Montpellier, les trois mineurs soupçonnés d'avoir roué de coups Samara, 13 ans, début de semaine, devant son collège, là encore, sont présentés en ce moment au parquet en vue de leur mise en examen. Ils ont avoué l'avoir frappé. Une enquête flash a été diligentée par la ministre de l'Éducation nationale pour comprendre ce qui a conduit à ce drame. Des prix planchers pour garantir aux agriculteurs un revenu digne. Emmanuel Macron avait annoncé cette mesure au Salon de l'agriculture et pourtant, ce sont les écologistes qui ont fait passer ce texte hier contre l'avis du gouvernement. Adopté à l'Assemblée par les voix de la gauche, l'exécutif avait fait valoir entre-temps la complexité du système et les effets pervers. Le gouvernement qui vole au secours des betteraviers, ils vont pouvoir utiliser davantage un insecticide permettant de lutter contre les pucerons responsables de la jaunisse. À cause de l'hiver très doux cette année, le risque de maladie est très élevé. Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture, l'a annoncé ce matin chez nos confrères de France Bleu Nord.
Cette année, les betteraviers pourront désormais faire jusqu'à 5 passages de Movento. Movento, c'est un phytosanitaire.
Passer de 2 à 5 passages, est-ce que c'est pas faire un compromis sur la santé publique ?
Non, pas du tout, parce que, encore une fois, les phytosanitaires sont interdits lorsqu'elles ont un impact avéré sur la santé publique. C'est toute la politique que nous avons menée ces dernières années pour analyser phytosanitaires, pas phytosanitaires, ceux qui ont un impact avéré, et l'utilisation de ces phytosanitaires qui ont un impact avéré sur la santé publique a diminué de 96%. Et ça, je crois que ça montre l'effort des agriculteurs pour s'engager dans une pratique plus écologique.
Pas de compromis sur la santé publique, dit la ministre. François Veyrette, porte-parole de l'ONG Génération Future, en doute.
On passe d'une autorisation pour 2 traitements à 5. Donc on fait plus que doubler le nombre de traitements. On n'est pas tout à fait sûr qu'il y ait une évaluation sérieuse pour les impacts de 5 traitements. D'autant plus qu'on est avec une molécule classée au niveau européen comme un toxique pour la reproduction, donc suspectée de catégorie 2. Les effets avaient pu être testés sur 2 traitements. Là, on n'a pas du tout de certitude qu'il y a eu une évaluation sur les effets de 5 traitements, d'autant plus qu'on a une molécule qui est préoccupante. Ce n'est pas rien d'être classé comme un toxique pour la reproduction possible. Je pense que c'est absolument indispensable de donner ces informations. Augmenter le nombre de traitements, ça doit reposer sur des données scientifiques absolument rigoureuses. Donc on a l'impression que voilà, c'est maintenant un peu open bar sur les dérogations sur les pesticides.
François Veyrette, interrogé par Rémi Brancato. Et pendant ce temps, l'eau monte. Alors on ne parle pas, pour une fois, des inondations. Il n'y a d'ailleurs plus aucun département en vigilance crue. On parle de l'océan qui avance. 500 communes à risque ont déjà été identifiées par le gouvernement face au recul du trait de côte. Sandy Dauphin, bonjour.
Bonjour.
Que dit ce nouveau rapport et quelle est sa cartographie ?
Eh bien, ce document rappelle que 20% des côtes françaises sont en recul. En 50 ans, l'océan a grignoté l'équivalent de 4200 terrains de football et le phénomène s'accélère. Les services du ministère de la Transition écologique publient aujourd'hui donc des cartes des territoires menacés à 3 échéances. Dans 5 ans, en 2050 et en 2100, Julia Jordan est la directrice du pôle risque, eau et mer au CEREMA, l'établissement public qui a élaboré cette cartographie du risque.
Concernant les logements, à l'horizon 2050, c'est environ 5200 logements qui seraient concernés pour une valeur vénale de 1,1 milliard d'euros, dont 2000 résidences secondaires. Mais c'est impacté à différents degrés, c'est-à-dire qu'ils vont pas tous partir à la mer. Ça veut dire que pour certains, c'est juste une toute petite portion de la surface qui va être concernée.
Face à cette menace, on peut construire des digues, protéger les dunes, mais à certains endroits, il faudra déplacer les habitations, les commerces, les routes. Le ministre de la Transition écologique dévoile justement dans quelques semaines un grand plan d'adaptation aux effets du changement climatique. On aura alors des précisions sur sa stratégie nationale face à l'érosion du littoral. qui doit répondre à des questions presque philosophiques. Qu'est-ce qu'on veut conserver? Quel est le degré de risque accepté? Il faut aussi trouver des milliards d'euros de financement.
Incendie Dauphin, une magistrate qui risque la cour d'assises. Hélène Gerhardts, qui officie à la cour d'appel d'Agen, encourt une mise en examen à Nice pour 11 chefs d'inculpation qui vont du trafic d'influence au détournement de fonds publics en passant par la construction sans permis. Bonjour Jean-Philippe Denis.
Bonjour Christelle.
Alors ce type d'affaire est rarissime dans le monde des juges. Cette magistrate qui a été en poste en Corse est soupçonnée en fait d'avoir entretenu des liens étroits avec un membre présumé du banditisme corse.
Oui, 3 années d'enquête qui ont révélé des liens étroits avec la bande criminelle du Petit Bar. La magistrate aurait ainsi obtenu des avantages en nature sur les travaux de rénovation de sa propriété dans le golfe d'Ajaccio en échange d'informations sensibles sur les procédures en cours. L'autre volet de poursuite concerne des fausses ordonnances judiciaires qu'elle aurait fabriquées pour des missions d'expertise informatique ou des missions de traduction toutes fictives. Elle utilisait ensuite les identités de son ex-mari, gendarme, et même des jeunes filles au pair qu'elle avait recrutées pour détourner plus de 120 000 euros de frais de justice, indique le parquet de Nice en charge de l'enquête, de l'argent réinvesti dans la valorisation immobilière. Tous ces faits couvrent une période de 14 années durant lesquelles Hélène Gerhardts a été successivement juge d'instruction à Marseille et à Ajaccio, puis vice-procureur à Toulouse et conseillère à la cour d'appel d'Agen. Mais aujourd'hui, elle est dans une situation qu'elle connaît parfaitement, dans le cabinet d'un juge d'instruction à Nice, où elle risque une bonne dizaine de mises en examen, dont une, les fausses ordonnances judiciaires, qui lui vaudraient à terme, vous l'avez dit, de comparaître un jour devant une cour d'assises.
Et les avocats de la magistrate dénonçaient dès hier un éventuel règlement de compte au sein de la magistrature. Le maire d'Agde reste en détention provisoire. La remise en liberté de l'élu républicain Gilles Détor a été rejetée ce matin à Montpellier. Il est en prison depuis 15 jours maintenant pour corruption et prise illégale d'intérêt. Il dit avoir été envoûté par une médium à qui il a ensuite accordé certains privilèges. À l'étranger, l'Ukraine affirme avoir détruit au moins 6 avions militaires russes. Une attaque contre un aérodrome proche de la ville de Rostov où se trouve une base de bombardiers. Rostov, ville proche de la frontière, abrite le quartier général des troupes russes qui interviennent en Ukraine. Cette fois, Benjamin Netanyahou n'aura pas pu rester sourd aux injonctions de Joe Biden. Face à une situation intenable dans la bande de Gaza, le président américain a demandé à Israël de mettre en œuvre rapidement une livraison d'aide humanitaire, faute de quoi il conditionnerait l'aide militaire américaine. Message reçu 5 sur 5, le port d'Ashdod va rouvrir temporairement, mais surtout le point de passage d'Erez au nord de la bande de Gaza. Bonjour Étienne Monin.
Bonjour.
On est quasiment à 6 mois jour pour jour du déclenchement de cette guerre. Est-ce qu'on peut parler d'un tournant ?
Alors, c'est peut-être pas un tournant, mais en tout cas, c'est une inflexion pour la première fois. Donc, vous le disiez, le président américain a conditionné son soutien aux résultats sur le plan humanitaire et il a donné une feuille de route au premier ministre israélien qui sera jugé sur pièce en lui demandant d'épargner les civils, de répondre aux besoins humanitaires et d'assurer la protection des organisations qui soutiennent les populations dans Gaza. Joe Biden essaye donc aujourd'hui d'appuyer sur la pédale de frein après avoir essayé pendant des semaines. Il faut dire que lundi, les Israéliens ont littéralement fait trembler les murs. Le même jour, ils ont visé les intérêts iraniens à Damas. Ils ont laissé le principal hôpital de Gaza en ruine et ils ont tué 7 humanitaires qui appartenaient à une ONG américaine dont le fondateur est un célèbre chef cuisinier qui a des contacts politiques au plus haut niveau. Le coup de semonce semble avoir porté du côté israélien. Le cabinet de guerre a approuvé les mesures immédiates, avec l'ouverture notamment du passage d'Erez au nord, qui devrait permettre d'alimenter des centaines de milliers de personnes qui sont aujourd'hui touchées par la malnutrition, en évitant un point d'engorgement dangereux situé au sud de la bande de Gaza.
Étienne Monin, et après la mort de 7 humanitaires en début de semaine dans une frappe, l'armée israélienne qui reconnaît une grave erreur a démis de leur fonction 2 responsables. Les sports, maintenant, ils roulent de plus en plus comme des machines, au point que les chutes deviennent de plus en plus inquiétantes sur les grandes courses cyclistes. Le Danois Vingegaard, victime d'une chute impressionnante hier, souffre d'un pneumothorax en plus de ses fractures. 8 coureurs sont tombés, dont certains comme lui bien placés pour le Tour de France à suivre. Ça va trop vite, dit ce matin Marc Madiot, le manager général de la formation Groupama FDJ.
On en arrive à ce type de chute parce que ça va de plus en plus vite, tout simplement, avec des coureurs qui sont de plus en plus compétitif et on va de plus en plus vite avec des vélos de plus en plus performants. On a des cyclistes qui vont de plus en plus vite sur des routes qui sont de plus en plus aménagées pour aller moins vite. Donc à un moment, ça ne passe plus. Après, moi je pense qu'il faut qu'on ait une action véritable auprès des constructeurs de cycles, mais ça c'est l'UCI qui doit l'avoir, et dire voilà, on revient en arrière. En sport automobile, quand ça va trop vite sur un circuit, on fait ce qu'il faut au niveau aérodynamisme pour ralentir les voitures, ou on diminue la puissance des moteurs. On trouve des solutions pour que la sécurité soit assurée. Aujourd'hui, on est plus en sécurité dans une voiture, dans une Formule 1, à plus de 300 km/h que sur un vélo, sur une route du Pays Basque ou du Tour de France.
Et on verra ce que ça donne sur le Paris-Roubaix dimanche. Enfin, si je vous dis Pierre de Coubertin, vous pensez JO. Le père des Jeux Olympiques modernes en 1896 va entrer au musée Grévin dans les prochains jours. Pourtant, le baron est controversé. Il défendait par exemple la supériorité de la race blanche et ne cachait pas sa misogynie. Il disait une Olympiade femelle serait inintéressante et inesthétique. Une autre époque, je vous laisse méditer, Jérôme Cadet, et je vous rends l'antenne. Vous êtes en direct de Talent.
Je ne sais pas si on avait besoin d'une polémique de plus autour de ces JO, mais enfin...
Je pense qu'on va y avoir droit.
Elle va peut-être arriver. Merci à vous, Christelle Robillard. Effectivement, nous sommes à Talent, tout près de Dijon. Nous parlons de ces Français qui font face au trafic de drogue. C'est un 13-14 sur le terrain. On se retrouve dans quelques instants.
Business Affaires. L'ADEME guide les entreprises dans leur transition écologique. Pour en savoir plus, on se retrouve dans un instant avec Luc Monvoisin, président de Cataba.
France Inter, partenaire des Eurocaines de Belfort du 4 au 7 juillet. 4 jours de musique sur la merveilleuse presqu'île de Malsaucy avec plus de 60 concerts. Pour cette 34e édition, retrouvez Lenny Kravitz, Royal Blood, Black Pumas, The Prodigy, Idols, Shy, Remy, Yamé et bien d'autres. Rendez-vous aux Eurocaines du 4 au 7 juillet. Un festival France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques, Euromaster garantit votre mobilité et préserve votre budget.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Un peu de pluie au nord et des températures en hausse.
Oui, de la Bretagne vers la région parisienne, les Ardennes et la Lorraine, on a encore pas mal de nuages pour cet après-midi. Quelques pluies possibles. Des éclaircies se dessinent sur la Normandie et sur le Nord-Pas-de-Calais. Sur le reste de la moitié nord, le soleil est plus ou moins voilé. En allant vers le sud, davantage de soleil. Il peut rester quand même un petit peu de grisaille autour de la Méditerranée, surtout vers l'Hérault. On a un vent de sud à sud-est qui souffle assez fort. Les températures, elles montent. Une ambiance estivale s'installe par le sud pour cette fin de semaine, avec 17 à 20 22 degrés au nord de la Loire et près de la Méditerranée cet après-midi, 22 à 26 ailleurs et même jusqu'à 26 à 28 au sud de la Garonne. Demain sera la journée la plus chaude de cet épisode, souvent 24 à 28 degrés, sauf sur le nord-ouest et en Méditerranée, jusqu'à 30 à 31 sur le sud de l'Aquitaine. Et dès dimanche, ça va baisser par l'ouest avec l'arrivée de nouvelles pluies.
Merci Elodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Un 13-14 spécial, donc aujourd'hui, nous avons été interpellés ces derniers mois, ces dernières semaines, par la succession de règlements de compte de victimes liées au trafic de drogue un petit peu partout en France. On a beaucoup parlé de Marseille et de son agglomération, et puis on a parlé d'autres villes, on a parlé de Rennes, on a parlé de Valence, on a parlé d'Alençon, et on a parlé de Dijon, de son agglomération, et des villes qui se trouvent autour de cette capitale bourguignonne. Voilà pourquoi nous avons décidé de venir ici, pour comprendre ce phénomène. Est-ce que le trafic est en augmentation? Est-ce qu'il charrie tout simplement davantage de violence? Et pourquoi? En abordant l'aspect de la sécurité des habitants qu'on a entendu et qu'on va entendre dans quelques minutes, en abordant aussi l'aspect de la santé des consommateurs, des malades aussi. Nous sommes allés ce matin au centre hospitalier universitaire de Dijon où se développe une expérimentation avec une ancienne toxicomane qui est devenue patiente experte. Elle va nous expliquer en quoi ça consiste et puis les enjeux sociaux aussi dans un quartier comme celui dans lequel nous sommes installés. C'est le quartier du Belvédère, dans cette commune de Talent. Nous sommes aux portes de Dijon, j'ai dit 11 000 habitants, un petit peu plus, 11 700. C'est la médiathèque, la bibliothèque Henri Vincenot qui nous accueille. Je vous présente nos invités. Fabien Ruinet, toujours avec nous, vous êtes le maire Les Républicains de cette commune de Talent. J'accueille Olivier Caracoche, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le procureur de la République de Dijon, avec nous également un homme que vous connaissez bien, puisque vous travaillez ensemble, c'est Bruno Gallo. Bonjour monsieur Gallo.
Bonjour.
Directeur interdépartemental frontale de la police nationale en Côte d'Or. On va parler de l'opération Place Nette à laquelle vous participez, Bruno Gallo, dans un instant avec notre reporter Ariane Grissel. Bonjour Ariane. Bonjour. Je voudrais d'abord qu'on dise un mot de cette bibliothèque, Henri Vincenot, grand écrivain bourguignon, qui donne donc son nom à ce lieu parce que Fabien Ruinet, dans un quartier comme celui-ci, la culture a une place importante.
Elle est décisive, elle est importante, elle participe, si vous voulez, au fait qu'il doit y avoir une action et une activité dans un quartier. C'est-à-dire, plus on fait de l'activité, de l'animation, plus on incite des jeunes à venir vers nous, plus on les conduit quelque part dans un univers qui est le bon.
D'où la présence de bandes dessinées juste à côté de nous et à l'étage de jeux vidéo aussi, parce que certains diront c'est pas de la culture, c'est pas bien, mais hier il y avait beaucoup de jeunes qui étaient là, et tant qu'ils sont là, ils sont pas ailleurs. Peut-être c'est ça aussi le...
Exactement. Et l'objectif c'est de les capter, de regarder, d'abord de pouvoir mieux gérer ce qu'ils regardent précisément en vidéo, parce que ça fait partie aussi d'un sujet bien qui sûr. Est très important, et puis ça rentre bien entendu dans d'autres dispositifs que nous avons mis en place, et spécialement culturels, avec le centre socio-culturel de la Turbine, où il y a des animations et des activités culturelles.
Ça c'est pour l'aspect social et culturel. Il y a évidemment un volet répressif dans cette lutte contre le trafic de drogue qui a connu un tournant il y a quelques semaines avec cette opération baptisée Place Nette XXL. Ariane Grissel, on en a beaucoup entendu parler. Il y a évidemment de la communication. Qu'est-ce qui se cache derrière? Vous êtes venu ici même en reportage à Dijon pour le comprendre. Vous êtes allé sur le terrain, Ariane, avec les policiers du commissariat de Dijon.
Oui, hier à Chenauve, puisque ça tourne chaque jour ou chaque soir un endroit différent. On embarque donc avec le lieutenant Célia Sicre et son équipe.
Donc on a un équipage BAC, section d'intervention, brigade spécialisée de terrain, deux pelotons de gendarmes mobiles. Et donc on a aussi un chien spécialisé dans la recherche de stupéfiants qui va nous accompagner pour l'après-midi.
Ce qui donne donc en tout une soixantaine de personnes mobilisées. Première étape, fouiller les caves et parties communes de certains bâtiments.
Donc là on va rentrer dans l'immeuble. C'est le chien qui va travailler. Nous aussi on va travailler. Et donc là, vous voyez, il commence à renifler pour voir s'il n'y a pas du produit stupéfiant caché quelque part. Là, dans le cadre de Place Nette, on vise tous les immeubles pour faire de la visibilité et de la présence.
Alors précisons que tout se fait en lien avec les bailleurs sociaux. Il y a aussi des chiens qui sont dressés pour retrouver des armes. Et pendant ce temps, une autre équipe, elle, sillonne le quartier.
Et donc là, on a eu un individu qui a été interpellé pour le trafic. Donc là, on va là où l'individu a été interpellé pour voir s'il n'y a pas du produit qui a été caché quelque part.
Et oui, sauf que dans les immeubles ou dehors, rien. Chou blanc, les trafiquants ont évidemment compris ce qui était en train de se passer. Ils ont tout rangé, allant même parfois jusqu'à la provoque. Sur une porte a été écrit « À l'attention du chien, visiblement, renifle, c'est ici ». Après, c'est sûr que c'est beaucoup plus calme que d'habitude, selon les policiers présents. Et puis, vous avez en parallèle, toujours dans le cadre de cette opération dite XXL, des policiers et gendarmes sur le bord des routes.
Ils contrôlent les véhicules et puis ils voient s'il y a des infractions routières ou autres à relever.
Voilà, donc vous l'aurez compris, le but est vraiment de se montrer, freiner les trafics, du moins ceux qui sont visibles. Oui. Des contrôles sont aussi menés dans certains commerces pour repérer les éventuelles opérations qui pourraient servir à blanchir l'argent de la drogue.
Merci Ariane Grissel, on verra avec vous dans quelques minutes comment réagissent les habitants, notamment ceux qui doivent subir dans leur appartement même, vous l'avez constaté hier, la présence des trafiquants. Olivier Caracoche, on l'a entendu à l'instant avec Ariane Grissel, des interpellations, ces opérations Place Nette, qu'est-ce qu'elles vous permettent de faire aujourd'hui que vous ne pouviez pas faire il y a quelques semaines ou quelques mois?
Alors, elles sont très intéressantes, ces opérations, parce que elles permettent de répondre à deux niveaux. Un niveau judiciaire qui est programmé en lien avec l'autorité judiciaire, le procureur de la République ou le juge d'instruction. Les services de police ou de gendarmerie interpellent des cibles qui ont été identifiées. Ça, c'est un travail un peu classique, si j'ose dire. Mais dans la foulée de ces interpellations, une présence massive de forces de sécurité intérieure sur le terrain, et cette présence massive, elle permet de sécuriser les quartiers, on en reparlera, mais elle permet aussi de constater de manière quasiment automatique la totalité des flux et la totalité des infractions qui peuvent se commettre sur la voie publique. Donc c'est intéressant parce que ça fait avancer des dossiers judiciaires, oui. Mais c'est intéressant parce que ça en fait naître de nouveaux et ça nous donne une lecture en temps réel de la commission des infractions.
On peut avoir un premier bilan, je crois que ça a commencé il y a deux semaines ici à Dijon sur nombre d'interpellés, placement en garde à vue par exemple.
Oui, ça a commencé il y a un peu moins de deux semaines. on a dit qu'on ferait un bilan à l'issue des trois premières semaines, mais de manière intermédiaire et donc non consolidée. On en est à une centaine de gardes à vue qui ont été prises dans le cadre de cette opération. Donc, je le redis, à la fois des gardes à vue qui étaient programmées et puis d'autres que la présence des forces de sécurité intérieure ont permis de prendre. Sur cette centaine de gardes à vue, c'est environ une soixantaine qui ont donné lieu à des réponses pénales. Il y en a d'autres qui sont toujours en cours, où il y a des affaires qui sont toujours en cours. Et sur les 60 personnes qui ont obtenu une réponse au sortir de leur garde à vue, la moitié ont été déférées au tribunal, présentées au tribunal, soit pour être jugées, soit pour être écrouées, soit pour être placées sous contrôle judiciaire, soit pour être convoquées à une audience ultérieure. Mais donc, une activité évidemment en croissance par rapport à une activité normale, habituelle. Mais une activité très intéressante.
Bruno Gallo, vous qui êtes le directeur interdépartemental de la police nationale, ici, on a été frappé par, il y a trois semaines, cette succession de faits. Il y a eu deux morts ici dans cette commune de Talent, un règlement de compte et une autre affaire qui semble liée à une affaire de trafic de drogue. Il y a également eu des personnes blessées, toujours en lien avec ce trafic de drogue. Ça nous donne l'impression que le trafic augmente. Est-ce qu'il augmente ou bien est-ce que simplement c'est la violence qu'il entraîne, qu'il charrie, qui est là aujourd'hui? Elle n'était pas là il y a quelques années.
Alors, c'est difficile de dire s'il augmente. Hein, avec les stupéfiants, souvent, on constate que plus on en cherche, plus on en trouve. Mais c'est aussi parce qu'on est très proactif qu'on en a de plus en plus. Ça fait déjà deux ans qu'on est en forte augmentation de ces infractions. La violence, elle semble se développer. On a affaire à un cycle, effectivement, depuis quelques semaines. J'attire votre attention sur le fait que c'est pas tout lié au trafic de stupéfiants.
Oui.
Les enquêtes permettent de le démontrer. Voilà, donc notre travail, c'est de réagir. C'est ce qui a été fait. On a eu plusieurs dizaines d'interpellations qui ont été menées dans le cadre de ces différents dossiers que vous évoquez, avec des présentations à la justice et des individus qui ont été placés sous mandat de dépôt. On espère que ça va pouvoir permettre de ramener le calme et on continue notre action. Et PlaceNet est venu s'inscrire dans le prolongement de cette réaction policière et judiciaire pour apporter une réponse de nature à rassurer la population.
J'entends beaucoup depuis hier que nous sommes arrivés ici, la violence, les règlements de compte sur les points de deal, c'est la marseillisation. Ce sont des trafiquants qui viennent de Marseille et qui veulent s'approprier les points de deal. Les gens d'urbaine ou bien il y a une réalité derrière tout ça?
Alors pour l'instant, moi je reste très prudent là-dessus. Marseillisation, c'est un grand mot. Tout ce qui vient du sud de Dijon est taxé de Marseillais ici. Dans les enquêtes, il apparaît effectivement des gens qui viennent de la Côte d'Azur, mais aussi du bassin lyonnais, comme on avait eu avant des gens de région parisienne. Donc, ça reste à démontrer et à établir profondément.
Mais ça veut dire qu'il y a une guerre de territoire, qu'il y a des trafiquants qui viennent d'ailleurs, en dehors de cette agglomération dijonnaise, qui veulent s'approprier des endroits où vendre leurs marchandises.
Je pense qu'il y a deux phénomènes. Il y a le premier où les trafiquants locaux font appel à de la main d'œuvre extérieure de région parisienne. On a eu le bassin nantais, on a eu, enfin voilà, Lyon, la Côte d'Azur. Et puis, effectivement, il semble qu'il y ait des luttes de territoire. Qu'il reste à démontrer, et puis là c'est le secret des enquêtes, donc je vais pas l'évoquer, où on voit que effectivement il y a des guerres de contrôle du territoire entre certains dealers, et le fait aussi que notre action offensive et répressive depuis plusieurs mois déstabilise les points de deal habituels, que quand vous démantelez un point de deal, les trafiquants vont pas partir et rentrer à la maison, mais vont essayer de le faire renaître ailleurs, ce qui explique un peu les mouvements auxquels on est confronté.
Ariane Grissel.
Alors, ce qui frappe aussi dans le bilan, le premier bilan que vous dressiez la semaine dernière, monsieur le procureur, c'est l'âge des personnes interpellées. Vous disiez un quart de mineurs.
Oui, ça c'était vraiment le tout premier bilan lors de la visite du ministre de l'Intérieur. Ça s'est un petit peu rééquilibré, si j'ose dire. À ce stade, on est à 15% environ de mineurs interpellés. Mais aussi parce que dans les opérations, il y a la lutte contre les stupéfiants, et les mineurs sont concernés, mais il y a aussi les phénomènes de violence, et notamment de violence interquartier, où là, les mineurs sont surreprésentés, les RICS exactement. Pour vous donner peut-être une petite image sur les gardes à vue que j'ai évoquées, on peut les diviser en trois tiers. Un tiers de trafic de stupéfiants, un tiers de violence aux personnes, notamment ces RICS interquartiers, et puis un tiers de tout le reste, des atteintes aux biens, des atteintes à l'autorité, quelques délits routiers également, puisque la présence massive des forces de sécurité sur les routes génère ce type de contentieux. Mais les atteintes aux personnes et le trafic de stupéfiants constituent les deux gros morceaux.
Est-ce que vous savez, Olivier Caracoche, qui tient le trafic de drogue à Dijon? Quelles sont les familles? Est-ce que vous avez une idée à peu près combien elles sont et où ça se passe?
Oui, on a évidemment un panorama et les services de monsieur le directeur font des études criminelles qui nous permettent d'identifier les familles qui tiennent le trafic de stupéfiants.
Je crois qu'il
y en a pas tant que ça.
C'est-à-dire
c'est plutôt des fratries d'ailleurs et qui sont moins d'une demi-douzaine. Donc on les connaît. Je reviens sur ce qu'a dit monsieur le directeur, c'est est-ce qu'il y a une arrivée extérieure à la région Bourgogne dans la prise de contrôle des territoires, ça on n'en est pas sûr. En revanche, il y a des main-d'œuvre extérieures, ça a été constaté dans les procédures. On pourra peut-être parler un petit peu plus tard de qu'est-ce qu'on fait sur ces fratries qui tiennent le trafic, parce que là, évidemment...
Et justement, qu'est-ce qu'on fait? On peut en parler maintenant. Je pense que c'est la question qu'on se pose une fois que vous nous avez dit, voilà, c'est moins d'une demi-douzaine de fratries qui, sur une ville comme Dijon, tiennent le trafic. Quelle action vous pouvez avoir? Parce que souvent, la critique qu'on entend sur ces opérations PlaceNet, c'est, bon, ok, on va attraper peut-être les guetteurs, peut-être les revendeurs, mais au fond, c'est pas eux qui sont au cœur du trafic.
Eh bien, c'est tout à fait exact. Des opérations de coups de poing comme celles que l'on vit actuellement ou les opérations quotidiennes de la police pour harceler les points de deal permettent de les fragiliser, permettent d'interpeller des revendeurs, des charbonneurs, des guetteurs, de saisir du produit. Mais on sait que malheureusement, cette main-d'œuvre, elle est totalement interchangeable et que deux interpellations conduisent à deux recrutements dès le lendemain. Donc, c'est complémentaire avec un travail de police judiciaire sur le fond et sur le haut du spectre. Mais c'est pas parce qu'on fait PlaceNet qu'on fait pas le reste. Au contraire, ça nous permet de recueillir du renseignement pour progresser dans les investigations sur ce qu'on appelle le haut du spectre et notamment...
Ça veut dire rassembler des éléments matériels pour mettre en cause ces personnes?
Ça veut dire rassembler
ça veut dire
des éléments.
Où sont ces personnes, ou peut-être vous
ça veut dire savoir où elles sont, et je pense notamment à une fratrie où les trois frères sont en fuite, donc ont été condamnés, mais sont en fuite à l'étranger. Donc c'est quand même
ils continuent de tenir le trafic,
vraisemblablement. Ouais. Donc c'est quand même des investigations qui sont longues. Et puis surtout un axe majeur de la politique pénale locale, c'est frapper au portefeuille. Parce que vous interpellez des petites mains, vous saisissez du produit, tout cela, les trafiquants peuvent le remplacer très rapidement. Ce en quoi on leur nuit beaucoup, c'est lorsqu'on arrive à saisir la richesse qu'ils ont accumulée grâce à leur trafic, puisque ce sont de grands capitalistes. La seule chose qui les intéresse, c'est l'argent, le pouvoir éventuellement. Et quand on leur enlève un peu de pouvoir avec des incarcérations, ce qui n'empêche pas parfois de continuer à diriger leur réseau.
Depuis la prison?
Absolument. Mais surtout en saisissant là où ils peuvent investir, là où ils ont investi, en leur prenant leur argent qui est jamais à leur nom, là on leur fait mal.
Mais ça c'est possible parce qu'on entend qu'ils ont souvent des investissements à l'étranger, notamment on pense aux Émirats, à Dubaï. Est-ce qu'on arrive vraiment à saisir ces fonds?
La réponse est oui, c'est possible. Oui, on y arrive. Est-ce qu'on pourrait faire mieux? J'en suis totalement convaincu. Mais vous imaginez bien que c'est un petit peu plus complexe, malgré tout ce dont on s'est doté. On a en France l'AGRASC, une agence de gestion des avoirs criminels, qui nous a beaucoup aidés. On a un arsenal juridique qui nous aide. Maintenant, il faut aussi y mettre les moyens et puis améliorer la coopération internationale, notamment avec les États que vous citez.
Tout cela sous le regard très attentif des riverains, des habitants. Il y a du public ici dans cette bibliothèque de talents où nous nous trouvons pour ce 13-14 de France Inter. Attente forte de la population, Ariane Grissel, que vous avez pu constater avec ces opérations PlaceNet. Vous avez rencontré ces habitants, vous avez constaté que pour eux, c'est toujours un moment de répit finalement.
Oui, alors il y a quand même... toujours quelques sceptiques à la Fontaine d'Ouche, où Gérald Darmanin était la semaine dernière. Cette mère de famille, elle voit surtout une entreprise de communication.
C'est juste des effets de manche pour moi. C'est déplacer le problème ou se donner bonne conscience, mais ça changera rien au problème. Si la PlaceNet, c'est pour éradiquer le trafic de drogue, non, ils vont s'arrêter un moment et puis ça va reprendre.
Alors, mais dans l'ensemble, les riverains disent... effectivement, voir un changement. Pas de policiers présents hier matin quand nous y sommes allés, mais ils reviennent régulièrement, selon ce commerçant.
Là, ça va mieux quand même, parce qu'il y a des polices partout. Ça fait à peu près une semaine, là, ça fait bien. Parce qu'avant, c'était catastrophe, en fait.
C'était une catastrophe, dit ce commerçant, d'autant que les trafiquants ne font pas toujours que rester devant les immeubles, comme l'explique ce policier.
Une fois qu'ils ont pris possession d'un bâtiment qu'ils contrôlent, ils cherchent une personne vulnérable et après soit ils les menacent ou soit ils les rémunèrent pour avoir accès à leur logement, pour se réfugier dedans, pour stocker les produits stupéfiants, voire pour conditionner les produits stupéfiants. Quand le point sur Chenot fonctionnait bien, il leur était proposé 5000 euros par mois, matin, soir et nuit, à n'importe quel moment de la nuit. En fait, ils ont un accès total sur l'habitation d'une personne.
Et donc, c'est un piège pour les habitants qui ont du monde chez eux 24 heures sur 24. Alors, oui, ça va mieux, disent les riverains, mais tout le monde ici a évidemment une question en tête. Combien de temps ça peut durer?
Nous, on a eu des dealers dans la rue 15 jours avant, c'est où il y a eu lieu la fusillade. Alors, donc, oui, il y a une bonne sécurité, là. Ils sont passés encore avant-hier avec les chiens, enfin, avec... Ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Le ménage, je pense pas qu'ils le feront à fond, parce que de toute façon, les bandes, elles sont là, elles vont exister. À voir, par la suite, je sais pas.
Aussitôt ils sont venus, aussitôt ils sont repartis, donc les mêmes habitudes reviennent, quoi. Bah, les points de deal qui sont fréquents, les petits qui traînent partout dans le quartier et puis qui se poignardent à tous les coins de rue, c'est des choses qui sont récurrentes à Fontaine-Douche. Donc on aimerait bien que ça change et tout. Un peu plus de descente, ça ferait pas de mal. Au moins, c'est un début. Donc essayer de maintenir le cap et puis bah voilà, repasser plus souvent. Ça va peut-être les décourager.
Donc des habitants plutôt satisfaits pour le moment, même si cette présence policière n'a pas empêché un adolescent de 14 ans de se faire poignarder lundi dans ce quartier de la Fontaine-Douche.
Il y a un élément intéressant dans ce que vous disiez, Ariane Grissel, ce sont ces délinquants qui mettent la pression sur des familles pour aller s'installer chez elles. Comment est-ce qu'on fait, Bruno Gallo, pour les chasser finalement? C'est quoi,
vous me dites 5000 euros au début du trafic, et plus le trafic prospère, et plus...
5000 euros et on reste chez vous pendant un mois, et je suis pas sûr qu'on puisse dire non d'ailleurs. Comment on fait, Bruno Gallo, pour lutter contre ça?
Ah bah, j'ai pas de recette magique, ouais. C'est ce qu'évoquait monsieur le procureur, hein. Ça, c'est le travail qu'on fait un peu dans l'ombre, de démantèlement des trafics de stupéfiants. Voilà, donc le but des investigations, bah, c'est d'essayer de démontrer la complicité qui peut être effectivement parfois forcée de ces gens pour les mettre hors d'état de nuire. Mais après, ça, c'est la justice qui prononce des peines adaptées en fonction des circonstances. Voilà, donc ce travail, il est fait, il est compliqué, il est difficile. C'est aussi pour ça qu'on appelle la population à nous aider en signalant, bah, quand il y a des présences d'individus suspects dans leur cage d'escalier, de pas attendre d'être pris en otage.
Fabien Ruinet, vous qui êtes le maire Les Républicains de Talent, est-ce que vous avez des familles qui viennent vous signaler ce type de fait ici sur votre commune?
Alors je rejoins ce que vient de dire Monsieur Gallo, c'est-à-dire notre vraie difficulté, c'est de collecter l'information. Après, à charge de la municipalité de donner les informations pour faire en sorte que ce soit traité.
Mais il y a des gens qui viennent vous voir en disant, Monsieur Ruinet, moi j'ai des trafiquants qui viennent dans mon appartement.
Ça se fait.
Je peux pas les mettre dehors.
Ça se fait, mais pas suffisamment. Et il faut absolument que dans les dispositifs qui sont mis en place, collectivement, la peur change de camp. C'est-à-dire celui qui va donner l'information, il n'est pas peur, parce que c'est ça le problème, c'est qu'il y a un phénomène de peur et les familles ne veulent pas dire ce qui s'y passe.
Alors qu'en fait, il peut y avoir des conséquences.
Mais bien sûr, c'est pour ça que je dis qu'en fait la sécurité c'est un ensemble et que la municipalité, la mairie, elle joue aussi un rôle. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour une raison très simple, c'est que devant un problème, il faut en parler. Vous avez la plupart des maires qui refusent qu'on parle de trafic de drogue dans leur commune, ils ont tort. Et deuxièmement, vous avez des maires qui considèrent que les problèmes de sécurité et de drogue, c'est un problème de l'État. Moi, je dis c'est un ensemble, c'est un arc de sécurité dans lequel la mairie joue un rôle aussi.
Alors, on a entendu aussi dans les voix des habitants que vous avez interrogés, Ariane Grissel, la question... Jusqu'à quand est-ce que ça peut durer? C'est aussi l'un des éléments abordés par Christophe Benoît. C'est le représentant du syndicat UNSA Police ici en Bourgogne-Franche-Comté, satisfait de ses opérations PlaceNet, mais qui pose aussi des questions.
C'est plutôt favorable dans le sens où on a beaucoup d'effectifs et ça nous permet d'élucider des affaires en cours. Alors pour l'instant, on est sur l'opération XXL. Après, la police va être engagée sur d'autres choses. Il y a les JO qui arrivent et on va être très très mobilisés là-dessus. Donc voilà, il va falloir qu'on mène de front les JO et cette politique du stup qui est nationale et qui depuis quelques années est la priorité du gouvernement.
Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Karakoch, quand les policiers peut-être vont avoir autre chose à faire, les brigades mobiles de gendarmerie vont être mobilisées sur d'autres opérations, je pense aux Jeux Olympiques qui vont arriver, ça va s'arrêter tout ça?
Je crois qu'il ne faut pas penser que c'est tout ou rien. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de choses quand il y a une opération place nette et puis qu'on fait rien le reste du temps. Pendant cette opération, les renforts sont importants, des renforts mobiles pour assurer une présence importante. On s'est organisé, côté judiciaire aussi, on s'est renforcé. On a prévu de doubler éventuellement les permanences, de doubler un certain nombre d'audiences. Mais en temps normal, cette activité contre les trafics de stupéfiants, elle est quotidienne. Et on parlait d'un point de deal à Chenôve en disant quand ça marche bien, mais maintenant que ça marche un peu moins bien, c'est un des résultats intéressants sur cette métropole, c'est d'avoir sérieusement affaibli ce point de deal. Donc c'est possible, ça suppose des actions quotidiennes et puis des investigations de fonds et des investigations financières.
Je vous garde à mes côtés, Olivier Caracoch et Bruno Gallo, merci d'être avec nous dans ce 13-14 spécial, mais je voudrais qu'on aborde maintenant l'aspect santé, parce qu'il y a évidemment au bout de la chaîne des consommateurs qui subissent aussi les conséquences de la drogue qu'ils peuvent consommer. On va en parler avec Vincent Meille. Bonjour Monsieur Meille.
Bonjour.
Vous êtes responsable du centre d'addictologie universitaire régionale au CHU de Dijon. Vous allez nous dire dans quelques minutes quels sont les patients que vous recevez à l'hôpital, comment vous pouvez les aider. Mais je voudrais d'abord qu'on donne la parole à Johanna, qui est une ancienne patiente du CHU, que nous sommes allés rencontrer ce matin. Elle était toxicomane, elle est devenue patiente experte. Elle a 37 ans, elle vient d'être recrutée mardi dernier. Je l'ai rencontrée ce matin.
Bonjour.
Vous êtes Johanna ?
C'est ça, tout à fait.
Est-ce que vous pouvez me présenter les lieux, où est-ce qu'on se trouve ?
Alors là, on est devant le bâtiment Marion du CHU de Dijon. Donc c'est le service addictologie au deuxième étage, service psychiatrie au premier étage.
C'est un bâtiment que vous connaissez bien ?
Oui, oui, oui. Pour y avoir été patiente plusieurs années.
Quand est-ce que vous êtes venue ici pour la première fois, vous vous souvenez ?
Alors, c'était fin 2016.
Pourquoi est-ce que vous étiez venue ici ?
Alors, je suis venue parce que je suis une ex-consommatrice de substances et drogues dures. Et je m'en suis sortie. Et maintenant, j'ai la chance de pouvoir travailler dans ce bâtiment pour accompagner les gens, les aider, leur raconter mon parcours et leur prouver qu'on peut s'en sortir et que c'est pas une fatalité d'être addict à des substances.
On avance un peu ?
On avance.
On se promène ? Johanna, comment ça a commencé pour vous? Souvent pour les jeunes, ça commence par exemple fumer un peu de cannabis. Est-ce que ça a commencé comme ça pour vous aussi?
Ouais, complètement. En fait, au départ, c'était un peu festif. Je fréquentais des gens qui consommaient, donc je les ai suivis. Et après, je suis tombée dedans vraiment à consommer pour mon propre plaisir quand j'étais toute seule. Ouais. Et après, y a eu la dérive où j'ai commencé à toucher aux drogues un peu plus dures. Et là, ça a été vraiment la descente aux enfers. C'était même plus dans un contexte festif. C'était vraiment pour un peu soigner mes blessures à moi, m'échapper un peu de la réalité. Et vraiment, il y avait aussi une idée de me redonner confiance. Enfin, je pensais que ça me redonnait confiance, mais en fait, pas du tout, quoi.
Ça vous a détruit ?
Ouais, complètement.
Quel a été le déclic ? Pour vous, à quel moment vous vous êtes dit, là, c'est plus possible, il faut que j'arrête? On vient d'arriver derrière
on est derrière
un bâtiment Marion. À quel moment ça s'est produit?
En fait, j'ai eu un grave problème de santé où je suis littéralement passée à côté de la mort. Et là, j'ai eu très, très peur. Et je me suis dit, là, il est peut-être temps que je reprenne pied. Et oui, vraiment, j'ai eu cette peur. Et du fait d'avoir été internée en médecine pour ce problème de santé qui était purement physique, purement somatique, et j'ai arrêté vraiment tout.
Donc ce bâtiment Marion que vous connaissez bien, vous y veniez pour vous faire soigner. Aujourd'hui, vous y venez, Johanna, pour soigner
les autres.
Tout à fait. Vous allez voir des personnes qui sont addictes,
oui,
dépendantes.
Oui.
Qu'est-ce que vous leur dites? Votre travail consiste à discuter avec eux, à leur parler?
Oui, voilà, tout à fait. Je me présente en tant qu'ancienne patiente, donc patiente experte, que j'étais dans leur cas. Et vraiment, c'est leur regard qui pétille d'un coup en disant « ça donne de l'espoir, peut-être qu'un jour je serai comme toi à ta place ». Et c'est ça qui est beau, c'est de leur dire « en fait, je parle vraiment naturellement, je me place vraiment, je vous comprends ». Parce que pour avoir eu leur passé, c'est vraiment « je vous comprends et je vous jure qu'on peut s'en sortir ». C'est vraiment cet espoir-là, quoi.
Le témoignage de Johanna rencontré ce matin dans votre centre d'addictologie, Vincent Meille. Pourquoi avoir mis sur pied ce dispositif pionnier? Je suis pas sûr que ça se passe dans d'autres hôpitaux de France.
Alors c'est un dispositif qui est très novateur. Au sein des hôpitaux, en tout cas au CHU, on a créé le corps de métier pour Johanna. L'enjeu, en fait, souvent, c'est de permettre aux patients d'aller se soigner. Très souvent, on a des patients qui sont dans une conduite de consommation et ils ont pas la conviction qu'ils vont pouvoir aller vers les soins, qu'ils vont en obtenir quelque chose de positif. Ils sont enfermés dans un mécanisme où la drogue permet, où les produits vont permettre de vivre au quotidien, d'avoir, de supporter le quotidien, de soulager le quotidien, mais ils sont pas du tout dans l'optique de retrouver peut-être leur fonctionnement qu'ils avaient auparavant. Donc, l'idée, ça va être de déstigmatiser les soins en addicto. C'est-à-dire, quelqu'un actuellement qui est en plein dans une consommation d'héroïne, consommation de cocaïne, sa vision des soins en addicto, c'est l'internement, c'est des médicaments qui sédatent, oui. C'est des médicaments qui sont impactants, c'est la vision des proches, c'est révéler leur dépendance aussi dans leur cercle amical, dans leur cercle social, ce qui est inenvisageable pour eux.
L'évolution principale de ces derniers mois, de ces dernières années pour vous, c'est l'augmentation du nombre de patients qui viennent vous voir à cause de la cocaïne. Ça, c'est vraiment ce qui a changé.
Alors, c'est vrai que depuis, on va dire 3-4 ans, on a une augmentation, une banalisation un petit peu de la consommation de cocaïne qui est moins redoutée par les personnes, peut-être parce que socialement, c'est perçu comme une drogue qui n'engendre pas de dépendance physique et parce que la dépendance psychologique qui est majeure avec ce produit est souvent méconnue. On est sur une drogue qui augmente l'estime de soi, qui va augmenter aussi la désinhibition, qui va augmenter les mises en danger, mais ça, c'est pas perçu par les consommateurs. Et souvent, qui va permettre d'améliorer la souffrance psychique. Quelqu'un qui est déprimé, quelqu'un qui est anxieux, dans un premier temps, au moment de la consommation, la cocaïne va aider. Mais malheureusement, rapidement, va augmenter les symptômes sur le long cours.
On peut aider ces personnes, vous obtenez des résultats?
Alors, notre mission, ça va être de les autoriser à se soigner. Et ça, c'est tout l'enjeu. Une fois qu'un patient met les pieds dans le service, moi, je considère que le pronostic, il est bon. Et c'est des patients avec qui on arrive à de très bons résultats. On a souvent la vision de patients qui vont venir de façon récurrente, pour qui on a des échecs répétés. On n'est pas là-dedans. On est sur des patients souvent qui viennent et rapidement, on arrive des bons résultats.
Johanna nous a parlé du premier joint qu'elle a fumé il y a quelques années, qui a entraîné son basculement. Je suis allé rencontrer hier quelques lycéens devant un lycée que vous connaissez. C'est le lycée Castel, c'est l'un des plus grands lycées ici de l'agglomération dijonnaise, élève en lycée professionnel, technique et général. C'était hier après-midi à la sortie des cours.
Bonjour.
Bonjour.
Je peux vous embêter 2 minutes? Je travaille à la radio.
Qu'est-ce que c'est? Inter.
C'est marqué dessus. Vous êtes au lycée, c'est ça?
Ouais.
Première.
Seconde. Terminale.
Est-ce que il y a de la consommation de drogue au lycée? Est-ce que c'est un.
Oui.
Est-ce que c'est un...
Oui. Ouais.
Oui.
Bah oui. Lui le premier. Hein.
C'est le premier. Hein.
Non. Non, on ne bouge pas à ça ici, mais oui, on en connaît.
Donc c'est assez généralisé finalement.
Oui.
Oui. C'est quoi comme drogue?
Bah du cannabis.
Du cannabis. Moi, je trouve que c'est même mieux que l'alcool, quoi, en soirée, de fumer que de boire, c'est moins dangereux, quoi.
Tant que ça reste de temps en temps, c'est préférable.
Ouais. Elle fume des clopes, mais pas de... Moi, je suis contre le cannabis, je pense que c'est mauvais, on devrait pas légaliser ça. Je pense que ça peut faire des problèmes après sur le cerveau, et puis même l'addiction, c'est mauvais.
L'addiction au cerveau, ouais.
Pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce qui... Ouais.
On va dire que j'étais témoin de certaines choses dans ma famille, etc. Et
qu'est-ce que vous avez constaté?
De l'addiction forte. Après, il y a des changements sur le caractère, sur le comportement. Ça peut créer des troubles de la personnalité. Et c'est compliqué à vivre après au quotidien, quoi.
Je voudrais avoir votre réaction, Vincent May, sur ce qu'on vient d'entendre, débat entre ces deux lycéennes. C'est dangereux, c'est pas dangereux. Quels sont les effets du cannabis pour les jeunes?
Alors déjà, moi, le premier aspect, c'est je suis ravi qu'on puisse en discuter avec une population jeune. Parce que c'est la principale cible au niveau des soins. Le principal risque du cannabis, c'est sur la population jeune. C'est là qu'il y a le plus d'enjeux, le plus de risques. C'est là qu'on a des dommages au niveau cognitif. C'est là où on a des dommages sur le parcours scolaire. Donc, c'est avec eux qu'il faut aller faire de la prévention. Par rapport aux enjeux du cannabis chez les jeunes, plus une consommation va être précoce, plus on va avoir de risques de dommages, de pathologies psychiatriques, de pathologies globales, ce qu'on appelle, nous, le syndrome motivationnel. Des patients qui, des enfants, des adolescents qui deviennent passifs, qui perdent de la motivation, qui vont gréver aussi leur potentiel au niveau social, au niveau éducatif. Donc, l'enjeu va être autour de comment est-ce qu'on permet à ces adolescents de ne pas consommer ou de moins consommer. La question de la légalisation, elle est importante, mais l'enjeu va être comment est-ce que cette mesure permettrait de faire de la prévention et de diminuer la consommation. Si légaliser permet de diminuer l'attrait, de diminuer la curiosité des adolescents, le tabou qui va pousser à l'enfreindre pour aller tester un produit, je pense que effectivement ça peut être une bonne chose. Si ça peut permettre également d'éviter la mise en contact avec d'autres produits potentiellement plus dangereux à travers le contact avec un réseau sous-jacent, un marché noir, là encore c'est quelque chose de positif. Mais l'enjeu également de ne pas faciliter la prise de contact d'adolescents à travers une offre légale.
On a parlé avec vous, merci Monsieur May, des aspects santé. Je voudrais qu'on parle aussi de la question sociale autour de ces jeunes. Ici avec vous, Marion Michéachane, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service famille et jeunesse au centre socioculturel La Turbine. C'est pas très loin d'ici, c'est à quelques centaines de mètres, c'est ça?
Oui, tout à fait. Ici. Le centre socioculturel est implanté à quelques mètres d'ici.
Un petit peu plus bas, en quoi consiste votre travail?
Alors, au sens large, le centre social a une mission d'accompagnement de la vie locale et... Disons que l'idée, c'est d'avoir, à travers des animations, une proposition sportive, culturelle, de loisirs, cette vocation à favoriser la rencontre, à favoriser le vivre ensemble. Voilà, c'est un peu les axes du centre social.
Est-ce que vous parlez avec les jeunes, je suppose évidemment, de ce qui se passe ici et du trafic de drogue notamment? Est-ce que c'est un sujet de discussion fort pour eux et pour vous, avec eux?
C'est un sujet qui revient régulièrement, mais plutôt auprès de mes animateurs avec qui je travaille, qui font remonter en fait effectivement des inquiétudes. Là, en ce moment, on a pu noter effectivement une belle baisse de la quantité de jeunes présents en soirée. On a beaucoup de parents qui,
c'est-à-dire présents en soirée,
leurs enfants de ne plus trop sortir.
Ah, présents en soirée dehors dans les rues, c'est ça que vous voulez dire? Oui. Parce que les jeunes restent longtemps ou tard le soir ici?
Pas plus qu'ailleurs, mais c'est vrai que même dans les majeurs, les jeunes majeurs, il y a effectivement moins de monde dans les rues en soirée.
On a rencontré hier, on est allé dans un centre de hip-hop dans le quartier de Chenôve, dans la commune de Chenôve plus précisément, tout près de Dijon. On a rencontré Baptiste qui est danseur, il prend des cours là-bas, il est en cours d'alternance commerce et il nous a expliqué sa passion pour la danse et son regard aussi pour ce trafic qu'il croise lui lorsqu'il se rend dans ce centre.
En fait, quand on écoute simplement les sons qui sortent aujourd'hui, c'est assez sombre et noir. Mais ce qu'il essaye de véhiculer à travers ces sons, c'est plutôt un état d'esprit. Après, moi, je trouve que c'est un très bon artiste parce que, en fait, il aborde des sujets de manière très crue. Et c'est justement ce qui fait son identité, sa personnalité. C'est des textes qui sont très osés. Ça peut être les violences policières, les guerres. Effectivement, la drogue, c'est un sujet qui revient assez fréquemment.
Et là, sais autour du cèdre justement si on peut acheter de la drogue ici.
Faut reculer un peu, mais les fours ils sont vraiment situés vers les HLM là-bas. Quand on sait la zone, il suffit d'y aller, on demande à quelqu'un et puis il va nous renseigner.
Ouais, le témoignage de Baptiste qui nous parlait au tout début d'un artiste qui s'appelle Freeze Corleone, qui est un rappeur extrêmement connu et qui a dans ses paroles des références aussi à la drogue. On en voit beaucoup dans la culture urbaine. Est-ce que ça, c'est un sujet pour vous, Marion? Est-ce que ça peut attirer des jeunes? Est-ce que ça donne un côté séduisant à tout cet univers du narcotrafic?
Alors, est-ce que la question, c'est est-ce que le côté
Est-ce que le fait qu'il y ait des paroles qui soient en référence au trafic, ça puisse attirer des jeunes, ou bien ça fait partie finalement de leur univers et donc on raconte ça et donc on le met en mots? Est-ce que vous avez un avis là-dessus?
Alors, mon avis, c'est que de toute façon, plus on parle de choses qui font résonance pour eux, plus forcément ça va leur parler. Si ça concerne leur quotidien et si c'est quelque chose qu'ils voient régulièrement, bien sûr que si c'est présent dans une chanson, ça va leur parler davantage. La réciproque aussi peut être vraie.
Ouais, et donc ils ont aussi une attirance peut-être pour des gens qui racontent ce qui se passe autour d'eux. Est-ce que c'est un sujet pour vous? Est-ce que c'est un élément du débat, Olivier Caracoch? La dimension culturelle et l'attirance que peuvent avoir les jeunes pour cette culture aujourd'hui?
Moi, je suis inquiet d'une forme de banalisation. Vous l'avez indiqué, les effets sur les jeunes, notamment avant 25 ans du cannabis, ils sont assez désastreux. Nous, on a des jeunes majeurs qui passent à la barre du tribunal, qui reconnaissent une consommation depuis plusieurs années, mais ils sont incapables de réfléchir et d'aligner trois mots. C'est assez affolant. Ce qu'il faudrait éviter, c'est aussi une banalisation de la cocaïne. Et dans le cadre des opérations, de l'opération PlaceNet qu'il y a eu, il y a eu des contrôles à la sortie d'un établissement. Moi, j'ai été sidéré de voir qu'il y avait autant de détenteurs de cocaïne que de cannabis dans cet établissement scolaire. Donc attention, c'est un vrai danger pour la société.
Les mutations dont on parlait à l'instant. Merci à tous d'avoir participé à ce 13-14 spécial à Talents aujourd'hui. Avant de se quitter, je voulais quand même qu'on dise un mot et qu'on salue la solidarité des Bourguignons qui n'ont pas été épargnés cette semaine par les inondations. Alors la situation s'améliore, mais à 50 km au nord-ouest d'ici, dans le parc alimagné de l'Auxois, la rivière qui traverse le parc a débordé cette semaine. Il a fallu mettre en sécurité les 500 animaux du site. Il n'y a eu aucun blessé, que des dégâts matériels. Le zoo accueille à nouveau des visiteurs, mais ça a été une semaine agitée pour Geoffrey Delahaye. C'est le soigneur du parc de l'Auxois.
On sait parfaitement ce qu'on a à faire. On suit sur Internet, sur Vigicru, notamment la montée des eaux. On le constate visuellement. La rivière s'appelle la Brenne. Elle traverse notre parc et dès qu'on voit qu'elle monte, on va commencer à mettre à l'abri les animaux. Donc on a évacué par exemple le troupeau de 60 chèvres naines qui n'ont pas encore été remis dans leur enclos. Elles sont dans un bâtiment au sec et à l'abri. On a également dû évacuer des marabouts qui sont des cigognes africaines. Parmi les vedettes, je dirais, se trouvent les grands félins, d'autant qu'on a en début d'année accueilli 3 lions rescapés et évacués en urgence d'Ukraine. Parmi les autres animaux, je ne peux pas ne pas citer les ours qui sont remis à l'honneur un petit peu depuis l'année dernière. On a complètement retravaillé leur espace, leur enclos. Puis on a ouvert dans le même temps une nouvelle salle de restauration, la taverne de l'ours, car les visiteurs peuvent manger en face à face avec les oursidés à travers de larges baies vitrées.
Et le parc est ouvert de 10h à 18h ce week-end. Merci à tous. Merci monsieur le maire Fabien Ruinet de nous avoir accueillis ici dans cette commune de Talents. Merci également aux collègues de France Bleu qui nous ont aidés à préparer ce 13-14 avec Cécilia Arbona à la rédaction en chef, assistée de Stéphanie Valois. Merci à notre chargé de production Éric Gérard, Virginie Lorda et Martin Troadec étaient à la technique. Merci pour l'équipe parisienne, Estelle Schmitt, Thibaut Cavaillès, Swat Bouzard, Nicolas Sabat, Florian Dorimini, Romain Leborgne à la technique, sans oublier les standardistes d'Inter.